Ce matin, j'aimerais commencer avec vous une nouvelle série de messages sur un personnage biblique. Le temps de la rentrée me semble propice pour vous proposer ce nouveau parcours, cette nouvelle aventure. Nous cherchons un personnage biblique. Top. Notre personnage est un homme. Son récit se trouve dans l'Ancien Testament. Il a vécu pendant la période du schisme en Israël, dans le royaume du Nord, et précisément pendant le règne du roi Akab. C'est un prophète. C'est Élie. J'ai entendu Élie, hein ? Voilà. Élie. Oui, aurait dit un certain Julien Lepers. C'est bien le prophète Élie qui va nous accompagner pendant plusieurs dimanches en automne, cet automne. Alors, la petite télécommande, voilà. Alors, quelques généralités, tout d'abord pour commencer. Et j'aimerais tout d'abord dire un mot sur l'importance d'Élie dans la Bible, du personnage d'Élie dans la Bible, et il y a plusieurs raisons à cela. Ça sera peut-être pas exhaustif, mais j'en soulignerai sans doute les plus importantes. Et on peut souligner tout d'abord qu'Élie fait partie du cercle très restreint, puisqu'il n'y a que deux personnes dans ce cercle, des personnes qui sont passées dans l'éternité sans passer par la mort. Le premier, c'est Hénoch, et le deuxième, c'est Élie, et nous aurons l'occasion, vers la fin de l'histoire, de nous arrêter sur ce récit. Notons ensuite que le prophète Malachie, donc à la fin de l'Ancien Testament, a cette prophétie où il annonce le retour d'Élie. Il prédit qu'Élie reviendra. Et Jésus annonce, je fais simple, Jésus annonce que cette prophétie s'est accomplie dans le prophète Jean-Baptiste, avec Jean-Baptiste. Et comme l'ange Gabriel l'avait annoncé au moment de sa naissance, Jean-Baptiste est bel et bien celui qui a marché devant le Seigneur avec l'Esprit et avec la puissance d'Élie. Vous retrouvez ça au début de l'évangile de Luc. Toujours au sujet de l'importance d'Élie dans la Bible, notons encore que pendant le ministère de Jésus, les évangélistes nous rapportent que certains pensaient que Jésus était Élie. Ça nous dit quelque chose de l'attente de ce prophète Élie et de ce qu'il pouvait représenter pour le peuple. Et puis au moment de sa mort sur la croix, vous savez, les paroles que Jésus a dites, quand il s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en entendant « Élie, Élie », l'évangéliste nous rapporte que certains pensaient qu'il appelait le prophète Élie. Là encore, ça nous dit quelque chose de ce que les gens comprenaient de ce prophète et l'attente qu'ils avaient du prophète Élie. Et puis, dernier élément, pour souligner la place qu'il occupe dans la Bible, nous pouvons nous souvenir aussi qu'il est l'autre personne qui apparaît aux côtés de Moïse dans la transfiguration avec Jésus. L'importance de Moïse n'est pas à démontrer, je ne pense pas, dans les Écritures. Et donc, le fait que Élie soit associé à ce personnage si important des Écritures, nous dit aussi quelque chose de son importance. Toujours dans les généralités, j'aimerais que nous notions encore, et je termine ce premier point avec ça, que le récit de la vie et du ministère d'Élie se trouve uniquement dans le livre des rois. Pourquoi est-ce que je dis uniquement dans le livre des rois ? Parce que généralement, ce qu'on trouve dans le livre des rois, on le trouve aussi dans le livre des chroniques. Or, ce n'est pas le cas, et sans doute, en tout cas c'est ce que disent les experts, que c'est certainement à cause de l'orientation judéenne du livre des chroniques. C'est-à-dire, par orientation judéenne, j'entends le parti pris du rédacteur du livre des Chroniques en faveur de Juda, c'est-à-dire en faveur du royaume du Sud. Or, il se trouve que Élie était un prophète du royaume du Nord. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi il n'apparaît pas dans le livre des Chroniques. Alors, l'évocation du royaume du Nord m'amène, après ces quelques généralités, à dire dans un deuxième point quelques mots sur le contexte de la vie et du ministère d'Élie. Et dans son livre sur Élie, Charles Swindoll écrit ceci. Quand on étudie la vie des individus, on doit aussi tenir compte de l'histoire. C'est particulièrement vrai lorsqu'on se penche sur des hommes et des femmes dont les réalisations ont survécu à l'épreuve du temps et sont aujourd'hui répertoriées dans les annales sous le label important ou digne d'intérêt. On ne peut séparer les gens du contexte de leur époque, parce que l'acier de leur être intérieur a été martelé sur l'enclume de leur temps et forgé dans le contexte de leur histoire. C'est beau, c'est vrai, c'est bien dit, et c'est la raison pour laquelle il est important que nous prenions le temps de comprendre, d'essayer de comprendre le contexte de la vie et du ministère d'Élie, si nous voulons comprendre au mieux son message dans les Écritures. Alors, quel est le contexte de la vie et du ministère d'Élie? C'est précisément celui du règne d'un roi du royaume du Nord, le règne du roi Achab. Et si on dit Achab, on pense aussi Jézabel. C'est donc le contexte de ce règne-là, Achab et Jézabel. Nous sommes dans le royaume du Nord et nous sommes après ce qu'on appelle le schisme. J'en dis un mot dans quelques instants. Nous sommes, s'il faut situer les choses dans une chronologie précise, nous sommes dans les années 874 à 853 avant Jésus-Christ. Le schisme dont je viens de parler, c'est la division du royaume d'Israël après la mort du roi Salomon. Ce qui a donné au nord le royaume du Nord, le royaume d'Israël, qu'on appelle aussi parfois le royaume d'Éphraïm ou Éphraïm tout seul, et au sud le royaume de Juda, le royaume du Sud. Voilà, très rapidement, juste pour que vous situiez un petit peu les différents royaumes. Vous voyez, le Royaume-Uni, ça commence avec Saül, David, Salomon. Le royaume se divise, royaume du Nord, royaume du Sud, et Achab se trouve ici. Et donc, c'est ici, pendant ce ministère, ce règne-là, que va intervenir le prophète Élie. Pourquoi le schisme? Pourquoi cette division du royaume? Il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire, mais on peut certainement résumer la chose ainsi. C'est à cause du péché ou de l'idolâtrie de Salomon. Et c'est donc suite à ce péché, à cette idolâtrie de Salomon, que Dieu va faire annoncer à Salomon que son royaume sera divisé, mais après sa mort, à cause de David, Dieu décide d'agir ainsi. Et ce royaume divisé, en tout cas pour une partie, sera donné à Jéroboam, qui est son serviteur, non pas son fils, mais son serviteur. Et nous lisons dans 1 Roi 11, verset 11, « Alors l'Éternel dit à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. » Et puis, un petit peu plus loin, au verset 30 à 32, « Aïa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Le schisme est donc un jugement de Dieu. Et c'est ainsi qu'après la mort de Salomon, va avoir lieu la division de son royaume, avec au nord 10 tribus, nous avons le texte ici qui nous explique un petit peu comment cela a été annoncé, 10 tribus au nord et au sud une tribu. Alors vous savez qu'il y a 12 tribus d'Israël et que 10 plus 1 ça fait 11 et pas 12. Alors en réalité, cette tribu unique du royaume du sud comprend la tribu de Juda, mais aussi la tribu de Siméon, qui est tout au sud, et puis il y a les quelques villes de la tribu de Benjamin, il y a la majorité des Lévites qui ont migré majoritairement du nord, en tout cas pour ceux qui y étaient au moment de la division, et puis aussi des immigrés des tribus du nord qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel. Tout ça, ça va se retrouver dans cette tribu unique du royaume du sud. Et donc au nord, nous avons la tribu, nous avons, pardon, 10 tribus pour constituer ce royaume du Nord. 10 tribus où vont se succéder 9 dynasties pour un total de 19 rois. Donc c'est bien ce qu'on a ici, de 1 jusqu'à 2, jusqu'à 19, jusqu'à Osée. Et ce qui est important de comprendre pour le royaume du Nord, c'est que c'est de ces 19 rois, il n'y en a pas un seul qui a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ils ont tous fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et donc, l'histoire de ce royaume du Nord, c'est une histoire plutôt chaotique, remplie de meurtres, remplie de conflits. La moitié de ces rois, à peu près, seront assassinés par ceux qui prendront leur place. Ça nous donne un petit peu une idée, alors c'est assez courant dans l'histoire, mais c'était aussi comme ça à cette époque. Et puis surtout, il n'y aura jamais de réveil dans le royaume du Nord, ce qui a été quand même le cas à quelques reprises dans le royaume du Sud, où il y a certains rois qui firent ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ce royaume du Nord va durer en tout 210 ans, Il commence en 931 avant Jésus-Christ et se termine en 721 avec la chute de Samarie, l'invasion des Assyriens qui vont massivement déporter ces 10 tribus du Nord. Il n'y aura pas de retour de captivité et donc ces 10 tribus seront perdues à jamais, si on peut dire les choses ainsi. Voilà la situation générale à grands traits pour ce qui est de l'histoire du royaume du Nord. Et donc là, maintenant, on va zoomer un petit peu et on va s'intéresser au règne d'Akab. Au règne d'Akab, donc, pendant lequel se passe le ministère d'Élie. Akab qui règne donc de 874 à 853 avant Jésus-Christ, un règne assez long, qui dure quand même 22 ans, c'est pas mal pour l'époque, et dans la liste des rois, là, c'est pas mal. Il est le 7e roi d'Israël, donc après la division du royaume, en face, il a pour vis-à-vis tout d'abord le roi Asa, et puis à la fin de sa vie, il aura pour vis-à-vis en Juda le roi Josaphat. Tous les rois d'Israël, je viens de le dire, étaient de mauvais rois, en tout cas du point de vue de Dieu. Ils ont peut-être fait de bonnes choses, économiquement parlant, mais du point de vue de Dieu, ce sont de mauvais rois qui n'ont pas recherché Dieu et qui ne se sont pas tournés vers lui. Et quand nous arrivons au règne d'Akab, l'Écriture nous mentionne, nous précise qu'Akab est le pire de tous. Ils étaient déjà tous mauvais, mais avec Akab, on atteint des sommets. En tout cas, le pire jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de ce règne. Quelques versets rapidement. pour le voir dans l'Écriture, 1 Roi 16, verset 30, « Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre 21, versets 25 à 26, « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Achab est un mauvais roi. Ça aurait déjà été suffisant, d'une certaine manière. Mais c'est par son mariage qu'il va devenir un très mauvais roi. L'influence de Jézabel, c'est vraiment ce qui va complètement noircir un tableau qui était quand même déjà très sombre. Si Achab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui l'avaient précédé, c'est bien à cause de Jézabel qui, dit le texte ici, l'y excitait. Hein ? Elle le poussait constamment dans ce sens-là. Alors comment est-ce que ces deux-là en sont venus à se marier ? Il faut remonter au règne précédent, au règne du roi Omri, le père d'Achab, qui va faire alliance avec les Phéniciens, qui sont un petit peu au nord, la ville de Tyr et de Sidon, et il se trouve que le père de Jézabel, le roi Ethbal, était le roi de Sidon et de Tyr, et donc Jézabel était la princesse, était une princesse phénicienne. Et donc, tout naturellement, pour sceller les alliances, c'est souvent ce qu'on faisait, il y a eu un mariage entre le roi ou le prince héritier du royaume du Nord et cette princesse phénicienne. Et qu'a emmené Jézabel dans sa dot ? Certainement beaucoup de choses, mais en particulier, elle a emmené avec elle le culte de Baal. Et nous lisons toujours dans 1 Roi, au chapitre 16, les versets 30 à 33. « Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Achab fit aussi le poteau d'Achéra, et Achab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. » Jézabel va donc jouer un rôle très important dans la déchéance du royaume du Nord, en tout cas à cette époque. Et il n'est sans doute pas faux de penser que c'est plutôt elle qui portait la culotte, comme on dit, dans le couple, et qu'en réalité, le règne d'Achab, c'est ce qu'on appelle un règne en jupon, parce que c'était Jézabel qui véritablement régnait sur Israël. Quelques mots maintenant rapidement sur le culte, ou plutôt les cultes de Baal. Il y avait en effet, à cette époque, plusieurs cultes de Baal, et ils étaient généralement associés à une localité, et on en trouve comme ça plusieurs qui sont cités dans la Bible. Il est question de Baal Péor dans le Livre des Nombres, de Baal Gad dans Josué, de Baal Hermon dans Juges. Et le dieu Baal de la ville de Tyr, c'était Baal Melkart, que Jézabel donc emmène avec elle. Généralement, tout ça s'est résumé dans la Bible par le mot Baal tout seul, dans la plupart du temps. Et ce mot Baal, il peut signifier plusieurs choses, seigneur, maître, propriétaire ou mari. Mais généralement, quand il est utilisé dans la Bible, il est utilisé pour la divinité, cette divinité principale du panthéon cananéen, qui était le dieu qui contrôlait la pluie, et donc le dieu qui contrôlait les récoltes, et c'était aussi le dieu de la fertilité. Et lié au rite de fertilité s'accompagnaient toutes sortes de pratiques dévoyées, en particulier la prostitution sacrée qui va faire son apparition, ou en tout cas qui va s'étendre à ce moment-là en Israël. Dans la dot de Jézabel, il y a donc le culte de Baal-Melkart, mais il y a aussi le culte d'Achéra. Comme nous le lisons au verset 33, Akab fit aussi le poteau d'Achéra. Achéra, c'est une divinité phénicienne, qui est souvent associée au dieu Baal. Et elle se présentait la plupart du temps sous la forme d'un poteau sculpté qu'on érigeait à côté d'un autel, à côté d'un haut lieu, d'une image, et on se prosternait donc devant ce poteau sculpté. Cet Achéra n'apparaît que à cette époque en Israël, après la division du royaume. Il y a plusieurs éléments. Elle sera même à un moment donné dans l'histoire introduite dans le temple de Jérusalem par Manassé. Josias la sortira et la brûlera. On se souvient ici que Dieu, en prévision de la conquête du pays de Canaan, avait dit aux Israélites de couper et de brûler les Achérim. Achérim, c'est simplement le pluriel d'Achéra, les Achérim, les poteaux sculptés qu'ils trouveraient donc en Canaan. Et Dieu leur avait spécifiquement interdit de planter un arbre ou un poteau à côté de l'autel de l'Éternel. Voilà quelques éléments donc de contexte pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe à cette époque dans ce royaume du Nord. Et ce sont des éléments qui nous font comprendre que d'un point de vue spirituel, la situation est catastrophique. Catastrophique pendant le règne d'Akab et le règne de Jézabel. Et pour faire face à ce couple mauvais, j'aurais presque envie de dire ce couple diabolique, tellement il a fait le mal, il fallait quelqu'un de bien trempé. Il fallait quelqu'un de la trempe d'Élie, avec une foi solide et avec un courage à toute épreuve. Et c'est ce que Dieu va permettre. Et le ministère d'Élie sera essentiellement un ministère de résistance au culte de Baal et aussi, bien évidemment, à Akab et à Jézabel. Nous passons au troisième et dernier point où je vous invite à commencer de faire un petit peu connaissance avec Élie. Élie, le prophète que Dieu a choisi pour confronter Akab et Jézabel. Et j'ai intitulé ce troisième point « Un homme sur la brèche ». Je lis un premier verset dans le livre des Rois, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Nous avons ici la première mention du prophète Élie dans la Bible. Élie, dont le nom hébreu Eliaou, signifie « L'Éternel est mon Dieu ». Un beau nom, une prédication résumée en un seul nom, c'est pas mal. En tout cas, quand Élie était annoncé, on savait qui arrivait et ce qu'il représentait. Et la première chose que ce texte nous dit concernant Élie, c'est son origine. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad. Élie était originaire d'une localité qui devait s'appeler Tishbé et qui malheureusement n'a jamais pu être identifiée par les géographes, en tout cas n'a jamais pu être précisément localisée. C'était sans doute une toute petite localité, un hameau, un trou perdu, on pourrait dire, au milieu de nulle part. Et cela nous rappelle que pour servir Dieu, Ce n'est pas nécessaire d'être bien né, dans une bonne famille, à la cour du roi ou à la capitale. Ce qui est nécessaire pour servir Dieu, c'est d'être appelé par lui. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons tous servir Dieu si nous suivons le Christ, parce que nous avons été appelés à servir si nous suivons le Christ. Et il y aurait eu beaucoup de versets à citer ici. J'en cite simplement un dans Jean 12, verset 26, où Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Suivre le Christ et servir le Christ sont intimement liés. Et le premier critère pour servir, c'est de suivre. Peu importe que je vienne de Tishbé ou d'ailleurs. Le premier critère, c'est de suivre le Christ. Et il est bon de nous en souvenir, de nous souvenir que Dieu se sert d'hommes et de femmes comme nous, de bonne volonté, indépendamment de leurs origines. C'est important. Parce que, vous le savez comme moi, il est assez facile de se sentir inadapté, de penser que l'on est trop petit, trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Il est tellement facile de trouver toutes sortes de raisons qui feraient que nous n'avons pas le profil qu'il faut pour servir. Et ce que nous devons savoir et nous rappeler ce matin, c'est que pour servir, ce qui compte, c'est que Dieu nous appelle. Et s'il nous appelle, alors il nous équipe aussi pour le faire et pour accomplir donc le service qu'il veut nous confier. Ça ne sera sans doute pas un service aussi périlleux que celui de Élie, mais l'important, ce n'est pas vraiment la nature du service. Ce qui est important, c'est l'obéissance, c'est la réponse que je vais donner à l'appel de Dieu dans ma vie. Alors, si nous ne savons pas où se trouve Tishbé, nous savons, parce que le texte le dit, que Élie, le Tishbite, vient d'une région qui s'appelle Galade. Alors, je vous ai mis une carte à l'ancienne, comme on dit, et on retrouve les deux royaumes, donc on est bien après le schisme, le royaume de Juda, ici, le royaume d'Israël, voilà. On retrouve Tyr et Sidon être quelque part par là. Donc Jézabel vient de là, de la Phénicie. Et puis Galade, c'est cette partie en Transjordanie, ici, donc à l'est du Jourdain. La capitale du royaume du Nord, c'est la Samarie, qui se trouve là. Donc Akab et Jézabel sont là. Et Élie vient quelque part de cette région de Galade. Ce n'est pas tout à fait la porte à côté. Avec une voiture, ça irait vite. À l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué. Surtout que là, on ne le voit pas trop, mais il y a beaucoup de montagnes hein, par ici. Donc, le voyage ne se faisait pas si facilement que ça. Nous sommes suffisamment éloignés de Samarie et pourtant suffisamment près pour que l'influence d'Akab et de Jézabel se soit étendue jusque-là. Alors, ce que l'on sait de ce pays de Galade, c'est que c'était un pays plutôt désertique, un pays austère, rude, un pays sauvage, et il est fort probable que Élie ressemblait un petit peu à ce pays d'où il venait. Et je dis cela parce que nous avons une indication de cela dans un texte biblique, c'est 2 Rois, chapitre 1, verset 8. Ahazia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'est un homme avec un vêtement de poil, il avait une ceinture de cuir autour des reins. » Alors Ahazia dit « C'est Élie le Tishbite. » L'apparence d'Élie est tout sauf sophistiquée. Elle nous rappelle un petit peu, ou même complètement, celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a vécu dans le désert, et on imagine assez facilement que Élie était un petit peu de cette trempe-là. C'est donc la première fois qu'Élie apparaît dans la Bible, et il semblerait que ce soit la première fois aussi qu'il se présente à la cour du roi Akab. Il y en aura bien d'autres, et on peut imaginer, avec cet homme pas très sophistiqué, habillé avec, avec une peau de bête, hein, c'est ce que ça veut dire, qui se présente, on peut imaginer les regards surpris et perplexes de la cour du roi, peut-être de Jézabel si elle était là, devant ce rustre qui demande audience et qui aura l'outrecuidance d'annoncer une sécheresse qui va durer plusieurs années. Ça, nous en parlerons la prochaine fois. Alors, j'ai appelé ce troisième point « Un homme sur la brèche » parce que c'est là que je voulais mettre l'accent en terminant. Et je fais allusion ici à un texte du prophète Ézéchiel que vous connaissez peut-être, Ézéchiel 22, verset 30, où nous lisons, c'est Dieu qui parle, « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. » Une brèche, c'est un trou, c'est une ouverture dans un mur, dans une clôture. Et donc, l'image ici, c'est l'image d'une situation d'urgence, d'une situation de danger, d'une situation de délabrement. Et se tenir sur la brèche, c'est se tenir là où sont les besoins. C'est se mobiliser pour répondre aux besoins. Alors, dans le texte d'Ézéchiel, où le contexte est tout autre, Dieu cherche quelqu'un qui se tiendra sur la brèche, mais il ne trouve personne. Ça ne court pas les rues. Il est possible ou pas qu'il soit question d'intercession dans ce texte d'Ézéchiel, mais là n'est pas la question. Et ce que j'aimerais retenir pour nous, en terminant, c'est deux choses. Deux choses. Premièrement, Élie a répondu présent à l'appel de Dieu. C'est la première chose. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne me sens pas à ma place. Mais il a dit oui. Les besoins étaient immenses, la situation spirituelle catastrophique. Et pourtant, il a dit oui. Il a dit oui à Dieu pour faire face à Akab et à Jézabel. Élie est monté sur la brèche. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais souligner en terminant, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes pour se tenir sur la brèche, sur les brèches des besoins de notre monde et en particulier sur les brèches des besoins spirituels. Et je pense ici, il y aurait d'autres textes à faire intervenir, mais j'ai pensé ici à ce texte, bien évidemment, de Jésus. Dans Matthieu 9, versets 37 à 38, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Des brèches dans notre monde, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup et il y en a de toutes les sortes. Il y a tellement de misères, toutes sortes de misères pour lesquelles on peut se mobiliser. Mais je ne peux pas adresser toutes ces choses maintenant. J'aimerais en adresser une parce que au final, c'est certainement la pire. C'est la pire parce que ses conséquences sont éternelles. C'est la misère ou la ruine spirituelle de notre monde qui est loin de Dieu. Oui, les besoins sont immenses. La moisson est grande, dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est la raison pour laquelle à cette époque et aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondront à son appel, pour se tenir sur la brèche des besoins spirituels de notre monde, pour dire au monde tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus, pour dire au monde qu'un jugement est à venir, mais qu'en Jésus, Dieu nous offre sa grâce et son pardon. Qui répondra à l'appel de la moisson? Pas besoin de devenir pasteur ou de devenir missionnaire pour cela. Il suffit d'être le témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie et de le faire là où Dieu nous a placés. Bien sûr, pour certains, ce sera un service à plein temps, bien évidemment. Et l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie au service du Seigneur. Mais il y a de la place pour tout le monde au service du Seigneur, même pour ceux et surtout pour ceux qui ne sont pas à plein temps. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et si nous prions le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, soyons prêts à répondre oui à l'appel qu'il ne manquera sans doute pas de nous adresser. Élie va se tenir sur la brèche. Ce sera exigeant, ce sera périlleux, mais Dieu va bénir la foi et le courage de cet homme. C'est ce que nous allons commencer de voir dans le détail la prochaine fois, en entrant pleinement dans cette nouvelle série. Amen. Voilà, c'est ce qu'on appelle un teaser, et j'espère que vous aurez envie d'entendre la suite. Je vous invite à quelques instants de silence.